Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et je suis extrêmement reconnaissant d'être là ce matin en forme. Beaucoup ont prédit des nuits difficiles. Beaucoup m'ont assuré d'un futur manque de sommeil. Sachez qu'il n'en est rien. Ah, ça doit sûrement être l'œuvre de l'aura ministérielle qui recouvre déjà et qui enveloppe cet enfant. Cette nuit, il a fait pour la première fois une nuit complète de 8 heures. Et comme c'est ma femme qui en prend soin pendant la nuit, c'est vrai que depuis le début, je n'ai pas à me plaindre. Ce matin, nous nous tournons et nous commençons une petite série de prédications sur la première épître à Timothée. Et donc, nous lisons en 1 Timothée le premier chapitre. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant véritable dans la foi, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. À mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin, qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Le but de ces instructions, c'est un amour qui provienne d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont écartés de cette ligne et se sont égarés dans des discours creux. Ils veulent être des professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent ni à ce qu'ils affirment avec assurance. Nous savons que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, en sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs, les rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges, les profanateurs, ceux qui tueraient père et mère, les meurtriers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Voilà ce qui est conforme au glorieux évangile du Dieu bienheureux tel qui m'a été confié. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux, mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des rois, au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse. Conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elles, combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre. Je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. La toute première église, l'église des commencements, s'est rapidement trouvée face à plusieurs défis de taille. Tout d'abord, il lui fallait définir les fondements théologiques de sa foi. En d'autres mots, dire en quoi croit-elle et en quoi ne croit-elle pas. Et cette démarche de clarification a pris plusieurs siècles. Et de nombreux débats, de nombreux conciles, de nombreuses excommunications aussi. Et lorsque l'apôtre écrit ses lettres et qu'il forme de nouvelles communautés, il ne possède pas un exemplaire du Nouveau Testament dans sa poche. Paul doit prier, méditer, lire l'Ancien Testament, débattre pour discerner et annoncer clairement et justement l'évangile de Jésus-Christ. Et donc cette première période de l'Église est marquée par un certain flou. Alors, je ne dis pas que la foi était absurde et qu'il se disait n'importe quoi. Mais le Nouveau Testament et les lettres de Paul nous apprennent que certaines personnes vont profiter de ce léger flou pour enseigner de faux enseignements. Et ils profitent de la crédulité et de l'ignorance de certains croyants. Et on note même dans une lettre qui n'a pas été retenue pour le Nouveau Testament, la Didaché, des instructions assez claires, notamment pour les prophètes. Le prophète devait prophétiser, et après 2 jours, il devait arrêter de vivre aux dépens des communautés locales qui l'accueillaient. Et donc, pour bien comprendre le contexte de la lettre à Timothée, Paul écrit à des petites communautés, ou moyennes, qui sont minoritaires. Paul a vécu dans un monde non chrétien. Et la grande majorité de la population de l'Empire romain n'est pas croyant à cette époque. Presque personne sait qui est Jésus. Et tout ça pour vous dire que très rapidement, les croyants vont se poser des questions de base. Et ces questions, c'est comment bien vivre ma foi ? Avec Jésus-Christ, comment est-ce qu'on rend un culte à Dieu ? Comment la révélation de Jésus-Christ, son enseignement et son œuvre transforment notre vie et notre quotidien ? Et ce même flou qui était dû au commencement, une forme d'incertitude, j'ai l'impression qu'on peut la retrouver de nos jours avec l'arrivée d'Internet et cette surexposition et cette surinformation. Et donc je crois que, en quelque sorte, les enseignements et les instructions que Paul donne à Timothée peuvent nous encourager, nous aussi. Et c'est absolument remarquable de comprendre que les lettres de Paul nous offrent une fenêtre sur le monde du Nouveau Testament. Et aujourd'hui, nous nous arrêtons en particulier sur ces épîtres que nous nommons pastorales, parce qu'elles s'adressent à une personne, soit Timothée, soit Tite, mais qui s'adressent quand même à la communauté. Et là, l'apôtre s'engage entièrement pour enseigner les croyants et réfuter ces hérésies qui se propagent dans les communautés, les nouvelles communautés qui viennent de se former. Et dans la première lettre à Timothée, on apprend que Paul a laissé justement Timothée à Éphèse avec comme mission de mettre un terme à certains enseignants et à veiller sur la communauté, sur son unité. Dans la lettre, nous apprenons que certains s'attachent à des fables et à des généalogies, qu'ils enseignent qu'il est interdit de se marier ou qu'il est interdit de consommer certains aliments. Et même dans la seconde lettre à Timothée, on apprend, elle précise que ce fameux Hyménée là qui est cité dans ce chapitre enseigne que la résurrection a déjà eu lieu. Et Paul va œuvrer de toutes ses forces pour confondre ces faux enseignants. Et ces lettres en sont un témoignage. Et dans ce premier chapitre, où Paul répond à la question de comment vivre sa foi, comment bien vivre sa foi, comment être fidèle à Dieu, il va faire une association. Et dans cette lettre, à trois reprises, Paul associe la foi à la conscience. Tout d'abord, au verset 5, il dit « Le but de cette injonction, de ce commandement, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. » À la fin du chapitre, l'apôtre Paul se répète « L'injonction que je te confie, Timothée mon enfant, selon les prophéties énoncées précédemment à ton sujet, c'est qu'en t'appuyant sur eux, tu mènes le beau combat, en gardant la foi et une bonne conscience. » Et au chapitre 3, dans les qualifications pour les diacres, Paul insiste de nouveau et il dit que les diacres doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Et je crois qu'ici, Paul, avec cette association, nous explique que la conscience est l'écrin de la foi. Prendre soin de ma foi, c'est aussi veiller à ma conscience. Et que si je perds ou que j'abîme ma confiance, ma foi aussi en est abîmée. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'au verset 19, il dit « Cette conscience, quelques-uns l'ont répudiée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. » Lorsque je fais naufrage, lorsque je répudie ma conscience, ma foi sombre aussi. Et donc l'objet de cette prédication, le message que je veux vous transmettre, prenez soin de votre conscience. Donc, qu'est-ce donc que la conscience ? Alors, c'est assez compliqué, c'est une notion qui est floue. Elle est non seulement floue, mais je la trouve extrêmement moderne, ou certains l'appelleraient même presque post-moderne. Oh, écoute ta conscience, tant que ta conscience te dit oui, tout va bien, il faut être authentique, il faut être sincère. On voit que tout ce vocabulaire se retrouve de nos jours. Mais pour Paul, la conscience, c'est la faculté intérieure de l'homme à évaluer de la valeur morale, bonne ou mauvaise, d'un acte. Au travers de ma conscience, j'évalue un acte, et je l'évalue sur les critères moraux. Et j'évalue non seulement mes propres actes, mais je suis aussi capable d'évaluer l'acte des autres. Alors j'ai dit à ma femme que je ne le dirais pas, mais c'est très intéressant. L'apôtre Paul le reprend vraiment beaucoup, cette notion de conscience, notamment dans la lettre aux Romains, où il nous dit que la conscience est non seulement juge, mais témoin. La conscience me témoigne du chemin à prendre, des actes à faire, mais ma conscience juge aussi mes actes rétroactivement lorsque j'agis mal. Et comme je vous ai dit, la conscience, c'est flou. Et je trouve intéressant qu'elle est floue et donc elle est peu abordée, non seulement en théologie, mais en prédication, parce que on n'aime pas trop, parce que on voit vite que les gens, des fois, ils ont une conscience un peu différente. Je crois qu'il y a deux pièges avec la conscience. Le premier, c'est de ne pas l'écouter. Et le grand problème à ne pas écouter sa conscience, c'est que moins je l'écoute et moins elle me parle. Moins j'écoute ma conscience et moins elle me parle. Et le deuxième, c'est de la croire infaillible. Non, ma conscience n'est pas infaillible. Et dans notre texte, l'apôtre Paul met en évidence deux cas de figure où la conscience est rendue inapte. Et le premier, c'est dans l'exemple que Paul donne de lui-même en disant « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié ». Et il dit « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. » Lorsque Paul persécute l'Église au début du livre des Actes, lorsqu'il pourchasse les chrétiens, il le fait en toute âme et conscience. Et non seulement il le fait en toute âme et conscience, mais il est sûr qu'il accomplit la volonté de Dieu. Lorsque Paul approuve la condamnation à mort d'Étienne, il est sûr de faire le bien. Et donc on voit bien que la première limite à notre conscience, c'est notre propre ignorance. Lorsque je suis ignorant, ma conscience peut me conduire dans de mauvais chemins. Et c'est bien pour ça qu'on voit cette insistance de Paul à enseigner et à éviter les faux enseignements. Parce que lorsque un prédicateur, lorsqu'un enseignant se lève dans une église pour dire des aberrations et des idioties, ces idioties peuvent avoir un impact négatif sur la conscience de ceux qui l'écoutent. Et ces idioties peuvent encourager des croyants qui sont dans une période difficile de leur foi à suivre un mauvais chemin. Le deuxième cas de figure que Paul met en avant qui inhibe notre conscience, c'est l'hypocrisie. Et ça, on le lit au chapitre 4, au verset 2, lorsque Paul écrit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. » Ces enseignants, ces faux enseignants, ont leur conscience qui est marquée au fer rouge par leur propre hypocrisie. Et ici, l'image est extrêmement forte. Elle renvoie à cette flétrissure. Donc cette marque qu'on imposait au fer rouge sur les esclaves fugitifs et sur les criminels pour les marquer et pour les juger. Et Paul reprend cette image, vous savez, dans l'histoire des Misérables. Jean Valjean qui est envoyé en galère, il est marqué au fer rouge par une flétrissure. Je crois que c'était le G. Puis si on prenait un GP à l'époque, ça voulait dire galère perpétuelle. Et donc si tu arrivais à t'enfuir, mais qu'on te retrouvait et que tu avais ce tatouage au fer rouge GP, on te renvoyait aux galères. Voilà. On mettait un F pour les faussaires et on mettait un V pour les voleurs. Et c'est un élément qui marque et qui est indélébile. Et donc, au travers de cette image, l'apôtre Paul, qui est très forte, hein, cette image, nous adresse un avertissement. Prenez garde à l'hypocrisie. Prenez garde, car l'hypocrisie peut marquer notre conscience extrêmement fortement et il peut la corrompre. Combattre le beau combat ou le bon combat, c'est non seulement garder la foi, mais c'est également garder une conscience pure, comme le dit l'apôtre Paul. Et en fait, lorsqu'on se met à rechercher et à étudier cette notion de conscience, on réalise que sur ces 14 occurrences du mot dans les lettres pauliniennes, 8 font référence aux viandes sacrifiées aux idoles. En fait, dans les premiers temps de l'Église, comme je le disais, Paul habitait dans un monde non chrétien. Et la grande majorité, si ce n'est l'absolue totalité des viandes qu'on mangeait à l'époque, était de la viande qu'on avait sacrifiée dans un temple. Et très rapidement, pour les chrétiens, va se poser la question, pouvons-nous ou ne pouvons-nous pas manger de cette viande ? Et on peut lire dans Romains, on peut lire dans Corinthiens, on peut lire ici, voilà aussi dans Timothée, quand on parle de ceux, certains qui interdisent de consommer certains aliments. Cette question de viande, qui on peut presque penser est redevenue actuelle, était un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Paul conclut en disant que rien n'est interdit, que le croyant, le chrétien qui est affermi dans sa foi, peut manger de n'importe quelle viande, car il sait bien que les idoles n'existent pas. Et pourtant, parce que certains croyants sont peu affermis dans leur foi, sont ignorants, il faut non seulement veiller à sa propre conscience, mais aussi à la conscience de l'autre. Et donc, il conseille, en présence de ceux à qui ça pose problème, de s'abstenir de manger de ces viandes. Et il conseille même au regard des non-croyants. Il dit, si pour un non-croyant, c'est une occasion de chute ou un obstacle à l'évangile que de manger de la viande en sa présence, abstenez-vous. Et j'aimerais vous adresser, et finir par vous adresser cette recommandation, écoutez votre conscience, mais ne la prenez pas pour infaillible. Il y a de cela de nombreuses années, non, il y a de ça, je pense, 2-3 ans, je rentrais en voiture chez moi. Pour tout vous dire, je devais aller chercher ma femme qui finissait la gymnastique. Et poussé par un élan de générosité, je me suis proposé d'aller la chercher. Bon, je ne sais pas si j'avais tellement le choix. Donc c'est une générosité toute relative. Et en fait, en y allant, j'ai croisé, ou plutôt j'ai remarqué une fille qui devait avoir plus ou moins 18-20 ans, et qui en fait marchait au bord du trottoir en pleurant et en boitant. Et j'ai eu très très fort au fond de moi, « Vincenzo, arrête-toi, tu vas pas la laisser rentrer à pied chez elle. » Surtout que dans ce genre de cas de figure, un jour mon père m'a expliqué « Je préfère m'arrêter moi parce que je sais que je suis quelqu'un de bienveillant. » Pas laisser quelqu'un de malveillant s'arrêter, mais de se dire « Prendre soin de cette personne et ne pas la laisser divaguer et pleurer et souffrir. » Et malheureusement, ce jour-là, je ne me suis pas arrêté. Et je vous en parle aujourd'hui parce qu'il m'arrive plusieurs fois, alors pas tous les jours non plus, mais on s'entend. Mais je repense à cette situation et je me dis, mais c'est vraiment dommage, quoi. Pourquoi tu t'es pas arrêté? Et je crois que cette frustration que j'ai remis au Seigneur, bien évidemment, était en fait la voix de ma conscience. Et ce jour-là, je ne l'ai pas écoutée. Et je m'en souviens toujours. Et je suis sûr que vous avez toutes et tous des situations en tête où votre conscience vous a dit de faire une bonne œuvre ou de faire quelque chose que vous ne l'avez pas écouté. Et vous vous en souvenez parfaitement. Alors, ce matin, je ne suis pas venu pour vous adresser un message pour vous opprimer et vous expliquer que vous êtes méchant de ne pas avoir écouté votre conscience, mais plutôt pour vous challenger, comme le dit le terme anglais. Pour vous défier à vous examiner vous-même. Où en est ma conscience? Où en suis-je avec cette voix qu'Alexandre Vinet décrit bien, qui elle est en moi, mais elle est quand même un peu extérieure à moi, je ne la possède pas totalement. Examinez-vous et examinons-nous nous-mêmes. Veillons avec une parfaite attention à notre conscience, sachant qu'elle est essentielle pour notre foi. Et je veux même pousser plus loin pendant le temps de la scène que nous vivrons à la suite de ce message. Examinons-nous vraiment et demandons à Dieu s'il nous est arrivé de faire la sourde oreille, de venir renouveler cette conscience en nous. Parce qu'il s'agit d'une des promesses de la nouvelle alliance, une des promesses que Jésus-Christ nous a accordées, que notre conscience soit renouvelée. Et que même si elle a été nourrie par de l'ignorance, ou qu'elle a été marquée au fer rouge par de l'hypocrisie, que le Seigneur puisse vous la renouveler et que, habité par une conscience nouvelle et qui est prête à crier de toutes ses forces, vous sachiez l'écouter et vous laisser conduire par elle, en n'oubliant pas qu'elle n'est pas infaillible. Amen.